On va partager la parole avant de prendre le repas du Seigneur. Et nous parlons sur ce thème du jeûne et prière. Le jeûne et la prière, on en a parlé déjà à deux reprises. C'est la troisième partie. Nous terminons aujourd'hui sur ce sujet. Et je rappellerai juste les points que nous avons vus donc la dernière fois. Donc le quatrième chapitre qui sont les buts du jeûne. Nous allons poursuivre donc ces buts. Le premier but que nous avons vu dimanche dernier, c'était chercher l'Éternel. Donc chercher l'Éternel, on l'a vu avec Josaphat, vous vous en rappelez, pour vous qui étiez là, qui dans la difficulté a commencé à se tourner vers Dieu et à chercher la face de Dieu. C'est un petit peu dommage d'attendre d'être dans la difficulté pour commencer à chercher Dieu, mais c'est ce qu'il a fait. C'est parfois malheureusement comme cela que nous sommes. C'est quand nous sommes acculés au dernier point que nous commençons à nous tourner vers Dieu, à jeûner, à prier. Et il faut prendre l'habitude certainement de chercher le Seigneur en toutes circonstances. Deuxième but du jeûne et prière, après chercher l'Éternel, c'est invoquer la protection divine avec cette parole d'Esdras qui avait un voyage périlleux en perspective et qui a demandé le secours de Dieu, et il a préparé ce voyage dans le jeûne et dans la prière. Troisième but du jeûne, exprimer un profond sentiment de repentance quand les enfants d'Israël ont réalisé qu'ils avaient péché et ils se sont repentis quand Daniel, au nom de lui-même, de son peuple, s'est tenu devant Dieu dans la repentance par le jeûne, et puis tout le peuple de Ninive aussi était touché par la parole de Dieu, ils se sont repentis et ils l'ont exprimé dans le jeûne et la prière. Et puis quatrième but du jeûne qu'on a vu, se tourner vers Dieu dans une situation désespérée, comme Esther, par exemple, lorsque il y avait le peuple de Dieu qui était menacé d'extinction, et elle a demandé ses 3 jours de jeûne, comme David qui a prié et jeûné pour l'enfant qui était sur le point de mourir, l'enfant qu'il avait eu avec Bathsheba, comme Daniel, comme Néhémie, pardon, qui était déçu de savoir que les murailles de Jérusalem étaient en ruine, et lui était tellement loin, il ne pouvait rien faire, mais il s'est mis à prier, jeûner, et ça lui a ouvert des portes pour aller jusqu'à Jérusalem. Et enfin, le cinquième but que l'on avait vu, qui est aussi très important, humilier son âme. Quand David s'est tenu devant Dieu et a fait un travail sur soi, c'est un des grands rôles du jeûne et prière, c'est travailler sur son âme afin de l'humilier, toute forme d'orgueil, de vanité qui est encore en nous, et de nous rendre plus humbles devant Dieu. Alors nous poursuivons ce matin sur ce sujet, ces buts, et on va voir un sixième but qui est revenir à Dieu dans le livre de Joël au chapitre 2 et au verset 12. Joël chapitre 2, verset 12. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Et on se rend compte qu'ici, il est question de jeûne encore dans la suite. Si vous lisez les versets 13 et suivants, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ? Dans le contexte ici du livre de Joël, et où intervient ce jeûne tout à fait saisissant, il y a eu des ravages successifs de sauterelles qui se sont amassées sur le pays, à plusieurs reprises, vous avez ça dans le premier chapitre, et il semble que rien ne peut arrêter ces ravages, rien ne peut arrêter cette puissance des sauterelles. Toute la verdure est ravagée, elle s'attaque aux écorces des arbres, elle se déplace en troupes, Il y a des témoignages comme ça de personnes qui ont vu des nuages de sauterelles se déployer comme ça sur une région. C'est des kilomètres de long, de 16 à 18 kilomètres de long. C'est très impressionnant, c'est énorme. 8 kilomètres de large environ. C'est épais. Quand il passe, c'est pire qu'un nuage. On voit plus le soleil. C'est l'obscurité. C'est comme si la lumière était changée en ténèbres. Et le bruit de leurs ailes est puissant. Ça fait peur. Les Orientaux appellent ces nuages de sauterelles les armées de Dieu. Et dans la Bible, elles sont utilisées comme symbole des jugements divins, ou alors comme symbole d'un châtiment, d'une punition. En fait, on se rend compte que le pays a été envahi par les sauterelles et il est maintenant dans la désolation. Et la vigne a été ravagée, les récoltes sont détruites. La Bible dit que la joie avait disparu, ils avaient tout perdu. Et le prophète en donne la raison. Eh bien, toutes ces choses sont venues, dit le prophète, parce que vous avez abandonné l'Éternel, vous avez négligé les offrandes et les sacrifices qui avaient disparu, etc., etc. Donc il y avait des conséquences terribles pour tout le pays. Et Joël nous montre ici que le peuple peut s'éloigner de Dieu et peut tomber dans le péché. Alors cela ne s'est pas fait en un jour ni en un mois, mais il a fallu qu'ils reviennent à Dieu. Ils se sont éloignés progressivement, voyez, peut-être insensiblement, mais jour après jour, et sans s'en rendre compte. Puis un jour, ils se sont rendus compte que c'était la catastrophe, que c'était désespéré. Mais, bien sûr, ça s'est fait sur plusieurs années, lentement mais sûrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, simplement, ils ont délaissé la priorité qui est Dieu, et ils se sont concentrés sur d'autres activités qui, à leurs yeux, sont devenues importantes. Ils ont commencé à délaisser petit à petit les rassemblements, les sacrifices, etc. Alors, cela peut arriver aussi aux chrétiens. Un chrétien, quand il se convertit, il aime le Seigneur, il est proche du Seigneur, et s'il ne veille pas sur sa vie spirituelle, lentement mais sûrement, bien petit à petit, devient laxiste. Il va peut-être délaisser certaines réunions, l'évangélisation, la prière, etc., et puis être absorbé par toutes sortes de choses secondaires, comme les loisirs, la télévision, Internet, etc., qui vont l'entraîner à perdre son temps dans des futilités. Alors que l'essentiel, nous le savons, c'est de prendre le temps que nous avons pour le Seigneur. Mais quand l'amour du Seigneur a diminué, quand on est moins fervent pour Dieu, alors on n'a plus le temps pour prier. On dit qu'on n'a plus le temps, mais on l'a. On n'a plus le temps pour le Seigneur, pour les réunions, pour l'évangélisation. On dit autrefois ils avaient le temps, mais aujourd'hui on n'a plus le temps. Autrefois, au début du siècle, dans les années 1900, la moyenne de travail horaire, c'était 80 heures par semaine. Aujourd'hui, c'est 35 heures. Bon, il y en a qui font plus, bien sûr. Mais aujourd'hui, on a moins de temps qu'avant. Pourquoi ? Parce que ce qui n'existait pas avant, c'est-à-dire les loisirs, les activités annexes, ont pris une place plus importante aujourd'hui. Si on regarde un pays comme la Corée du Nord, ils ont qu'une seule journée la Corée du Sud, ils ont qu'une seule journée de congé par semaine, c'est le dimanche. C'est tout. Et les chrétiens, c'est pour le Seigneur. Et ils le font avec joie, parce qu'ils placent cette journée pour Dieu. Je pense qu'il nous faut vraiment remettre les priorités. Notre priorité, frères et sœurs, c'est le Seigneur. Et puis si on a du temps pour le reste, merci, on peut le faire. Mais commençons toujours nos journées par rendre la gloire au Seigneur, passer du temps dans sa présence, c'est tellement important. Bientôt, on n'a plus le temps, on est tellement pris que certains me disent « Oui, mais c'est trop long, on n'a plus le temps de venir à l'église. » Bientôt, on me dit « On n'a plus le temps de venir au culte, il faudrait faire plus court. » Vous savez, dans certaines églises, c'est de 10h30 et à 11h15, il faut que ça soit terminé. 45 minutes, il faut que ça dure un culte. Parce que les gens n'ont plus le temps pour venir louer le Seigneur, pour écouter la parole de Dieu. On n'a plus le temps aujourd'hui. Alors cela nous attriste, et certainement que le Seigneur n'a plus la première place, si c'est comme ça aujourd'hui dans notre cœur, c'est qu'on s'est éloigné de Dieu. La diapo suivante nous montre des statistiques qui sont tout à fait consternantes et qui devraient nous alarmer, nous qui sommes chrétiens. Dans notre pays, en France, dans les assemblées de Dieu, si on regarde les statistiques des églises des 5 dernières années, on se rend compte qu'il y avait eu une progression jusqu'en 2003. En 2003, il y avait 695 lieux de culte. C'est le sommet donc des choses qui ont été ouvertes. 2.694, ensuite 695. Et puis voyez, après 2003, qu'est-ce qui s'est passé ? 2004, 693. 2005, 687. 2006, 671. Donc on voit quand même qu'il y a une courbe descendante en ce qui correspond au lieu de culte et au point d'évangélisation. Je parle uniquement des assemblées de Dieu en France. Ce qui devrait nous amener à réfléchir, puisque ça fait 24 fermetures d'œuvres depuis 2003. C'est que les choses quand même vont mal dans notre pays, et même pour le peuple de Dieu. Il n'y a pas que les églises qui sont en difficulté. Si on regarde vers la mission, par exemple, les missionnaires, Michel Fred, l'action missionnaire, on est averti dans les conventions, il y a des grosses difficultés. Difficultés financières, des missionnaires qui n'ont pas pu rentrer ou d'autres qui doivent rentrer parce qu'il n'y a plus les fonds, il n'y a plus les fonds pour les projets, etc. Donc on passe par des moments difficiles. Il y a aussi CVA Christ vous appelle avec notre frère Laurent Guillet qui nous a donné des nouvelles où là aussi on ressent des difficultés. Il y a eu des fermetures d'antennes, ils n'ont plus eu la possibilité d'émettre certaines émissions. Et puis ils connaissent aussi des difficultés dans le sens matériel, où ils n'ont plus salarié qu'une personne, alors que normalement ils doivent être cinq. Et ils doivent reprendre les activités avec cinq salariés, et ils n'y arrivent pas. Donc, on se rend compte que globalement, il y a des difficultés partout, que ce soit dans les églises, dans les œuvres, et on a vraiment besoin de réaliser qu'il y a un problème dans notre pays, il y a notre pays qui est attaqué, l'œuvre spirituelle dans notre pays est attaquée, ici, en mission, partout, où l'œuvre de Dieu, bien sûr, est... veut avancer. Quand on considère les églises, il y a beaucoup d'églises en souffrance et beaucoup de couples chrétiens qui sont en difficulté, beaucoup de familles où il y a des séparations, des divorces, même au milieu du peuple de Dieu. Toutes ces choses, nous les voyons et cela nous attriste. Nous considérons aussi les pasteurs. Il y a des pasteurs qui sont exclus, il y a des chutes de ministère, il y a des choses qui nous attristent. Nous voyons que l'Église, lorsqu'elle veut aller de l'avant, elle est attaquée par le diable. Et nous, nous sommes une Église évangélique, une Église de Pentecôte, et nous voulons gagner des âmes pour le Seigneur. Nous voulons aller de l'avant pour l'Évangile. Eh bien, sachez, frères et sœurs, que nous allons être attaqués et que Satan veut détruire les Églises, qu'il veut détruire l'œuvre de Dieu, et qu'il nous faut le savoir. Les Églises, donc, sont menacées. Le monde aussi a fait son apparition, insidieusement et sournoisement, au milieu du peuple de Dieu. Ça s'est fait progressivement, mais on voit dans les discussions, dans les comportements, dans les jugements, dans les propos équivoques, la légèreté, etc., qui fait son apparition. Tout cela n'est pas normal et montre, quand il y a des conflits, l'amertume, que c'est le monde qui domine sur l'Église et non plus l'Esprit. Et cela doit nous interpeller, frères et sœurs, parce que finalement, quelle différence y a-t-il entre un chrétien et le monde ? Quelle différence y a-t-il entre l'Église aujourd'hui et le monde ? Est-ce que nous sommes devenus pareils que le monde, ou est-ce qu'il y a vraiment une différence aujourd'hui ? Même quand le pasteur commence à reprendre une personne ou à dire la vérité, souvent la personne, elle éclate, hein, et elle dit « puisque c'est comme ça, je vais dans une autre église où il y a plus d'amour ». Et où on ne parlera pas de la croix, pas du péché, pas de la repentance, pas ces choses-là. Comme ça, je serai tranquille. Et puis, il y a tellement d'églises aujourd'hui où on ne prêche plus la croix. Et on n'invite plus les gens à prier, à jeûner, à se tenir devant Dieu. Ces choses, on pense que c'était autrefois. Alors, c'était le cas dans le peuple de Dieu. Et voyez-vous, frères et sœurs, je pense à notre église ici à Toulouse-Ouest. C'est une église qui est attaquée par le diable. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont attaqués, les serviteurs sont attaqués, les anciens, pour qu'il y ait véritablement un recul de l'Évangile. Et il est temps vraiment de se placer devant Dieu, et comme ce texte nous invite, de revenir à Dieu de tout notre cœur et de se tenir devant sa face afin de ne pas sombrer, de ne pas chuter loin de lui. C'est arrivé au peuple ici, ça peut arriver à l'Église, il nous faut veiller à cela. En tout cas, il est question de retour avec des pleurs, avec des lamentations et surtout de tout votre cœur. Parce que s'il y a les pleurs et les lamentations, ça ne servira à rien si le cœur est éloigné de Dieu. Il faut que notre cœur soit touché et c'est là peut-être où c'est le plus difficile. car notre cœur résiste à l'action de Dieu, souvent, à l'action du Saint-Esprit. Il y a un psaume où David écrit, psaume 51, verset 19, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Eh bien, notre cœur, voilà, il est brisé, il est contrit, c'est comme ça qu'il doit être devant Dieu. Notre cœur doit être en entier pour l'Éternel, doit rejeter tout sentiment d'orgueil, tout sentiment mondain, tout compromis qui s'est installé. Un cœur entier pour Dieu, ça veut dire un cœur qui veut faire la volonté du Seigneur, qui est semblable au sentiment de Dieu. Et une question qu'on peut se poser ce matin, est-ce que dans mon cœur il y a toujours l'amour pour le Seigneur? Est-ce qu'il a toujours la première place? Parce que si vraiment il a la première place, alors pourquoi est-ce que c'est si difficile de prendre du temps pour lui? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de venir à telle ou telle réunion? Et pourquoi on dit on n'a plus le temps? Aujourd'hui, est-ce que ça me coûte tellement de venir passer du temps dans la présence de Dieu? Parce que j'ai tellement d'autres choses à faire qui, à mes yeux, sont importantes. Eh bien, aujourd'hui, il faut faire une analyse, un bilan de notre cœur. Parce que la réalité, c'est que notre cœur a changé, c'est qu'il s'est éloigné de Dieu, si on a dit qu'on n'a plus le temps. C'est que progressivement, Dieu n'a plus la première place et qu'on est comme ce peuple et qu'on a vraiment besoin de revenir à Dieu. Alors quand on est face au constat, voyez-vous, on voit que notre pays est attaqué, ravagé, qu'il y a vraiment, comme ces vagues de sauterelles qui sont passées, on est en situation difficile. Il y a deux possibilités de réagir. Soit on fait comme l'autruche et on met la tête dans le sable et on dit tout va bien, le danger va passer à côté, et puis moi je vais m'en sortir. Ça c'est la tactique de ceux qui font rien. Et puis il y a ceux qui disent il faut qu'on fasse quelque chose. On peut rien faire humainement, mais au moins on peut faire une chose, comme dit la Bible, c'est de revenir à Dieu avec des jeûnes, avec des lamentations, avec des prières. C'est-à-dire on va se tenir devant la face de Dieu et on va chercher le Seigneur. En disant « Seigneur, je reconnais que j'ai changé, que mon cœur n'est plus le même, qu'il n'est plus entier pour toi. Je reconnais que j'ai plus le même amour, que je me suis éloigné. » Et ça, c'est une démarche que chacun doit avoir pour sa part devant Dieu. Alors les jeûnes collectifs, c'est ce dont il est question ici, par exemple au verset 15, « Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. » Les jeûnes collectifs étaient annoncés au son du shofar, qui est une corde de bélier, et tout le peuple était convoqué. Toute la nation avait besoin de retourner à Dieu. Vous voyez que dans ce contexte exceptionnel, il y avait les plus âgés qui étaient là, les enfants, même les nourrissons, même les jeunes mariés, il fallait qu'ils viennent. Ça représente toutes les familles qui étaient là. Alors c'est une expression pour désigner le peuple dans son ensemble. Ceci montre que la collectivité est invitée à revenir à Dieu, du plus petit jusqu'au plus grand. Le jeûne, en fait, bien sûr, c'est un acte volontaire. On a dit qu'on ne doit pas imposer un enfant de jeûner, puisque c'est un acte volontaire. Là, nous avons un exemple tout à fait particulier, où tout le peuple, donc symboliquement, est représenté par toutes ces catégories. Les sacrificateurs sont là. Les sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils représentent au verset 17? Ça représente les serviteurs, les pasteurs, mais aussi les anciens, tous ceux qui ont une responsabilité spirituelle dans l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit qu'ils se mettent dans le jeûne et la prière et qu'ils se tiennent devant Dieu dans les pleurs, dans les larmes, en suppliant le Seigneur. Et il est dit qu'ils sont sur leur plan de travail, c'est-à-dire entre le portique et l'autel, là où ils servaient le Seigneur habituellement. Donc il y a là une importance, c'est qu'en tant que responsable spirituel, pasteur ancien, ce n'est pas un titre, mais c'est une fonction ou un ministère dans l'Église, et nous devons être sensibles à la direction du Saint-Esprit, je dirais sensible à savoir si l'esprit est attristé et considérer l'état spirituel, non pas simplement le nôtre. Déjà c'est important de savoir où on en est nous, parce qu'il se peut même que quand on est responsable, on ait délaissé le Seigneur. Mais il est important de savoir où en est la globalité, où en est mon frère et ma sœur qui est autour de nous. Et ça doit être, en tant que responsable, nous devons être les premiers à nous mobiliser quand il y a une difficulté, quand il y a besoin de revenir à Dieu. Pourquoi? Parce que les responsables, ce sont les modèles. Et ils doivent s'engager et être fidèles dans la prière. Donc le responsable est conscient, il pleure, il supplie Dieu. Et sachez que nous qui sommes responsables, nous devrons rendre des comptes à Dieu pour la manière dont nous aurons géré son œuvre. Donc nous devons veiller à ces choses. Dieu n'est pas resté insensible. Si on lit la suite, par exemple, au verset 23, on se rend compte que, eh bien, Dieu va envoyer à nouveau la bénédiction. Il est dit, par exemple, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, et il vous enverra la pluie de la première, de l'arrière-saison, comme autrefois. » Et puis ensuite, il dit « Les airs seront remplis de blé, les cuves regorgeront de moût et d'huile, etc. » Ils vont quitter ce temps de famine, de sécheresse, de ravage, pour connaître un temps d'abondance. Pourquoi ? Parce qu'au milieu, il y a eu un temps de jeûne, un temps de prière, où ils ont vraiment réalisé qu'ils s'étaient éloignés de Dieu et qu'ils sont revenus à Dieu de tout leur cœur, avec des pleurs, avec des lamentations. Donc, ça c'était le sixième but, revenir à Dieu. On va passer maintenant au septième. Septième, qui est se préparer en vue d'un service. Là, on va voir deux exemples. Donc, le premier qui est mentionné, c'est Jésus, dans Luc 4, verset 1er. Il est dit dans ce passage que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il furent écoulés, il eut faim. Donc on arrive à situer quand se passe ce temps de jeûne de 40 jours. C'est après le Jourdain, donc après le baptême de Jésus. Alors on peut dire que Jésus nous a laissé un exemple par le baptême, puisqu'il n'avait pas vraiment besoin lui-même de se faire baptiser, mais il l'a fait en signe pour nous, un signe d'engagement envers Dieu, que nous devrions le faire par la suite. Et puis il nous a laissé, suite au baptême, un exemple aussi par sa piété, par le jeûne et la prière, qui est sa préparation au service de Dieu. Donc 40 jours de jeûne, 40 jours de jeûne et prière. En effet, ces 40 jours se sont produits avant son ministère public. Donc, il y a une préparation très importante dans le désert. Il y a les trois tentations qu'on a déjà vues avec le diable qui va s'acharner sur lui. Il a démontré sa puissance sur le péché, sa puissance sur le diable. Et on ne devrait pas prendre le service de Dieu sans se préparer. On ne devrait pas servir le Seigneur sans avoir prié, passé du temps même dans le jeûne, parce que ce ne sont pas des choses à la légère. Pourquoi est-ce qu'il nous faut nous préparer? Eh bien parce que quand on veut servir Dieu, on est doublement attaqué par rapport à celui qui ne sert pas le Seigneur. On entre directement dans le collimateur de Satan. Et vous savez que Pierre, et Jésus lui a dit « Tu seras criblé comme le froment ». Et donc il est passé par des moments très difficiles. Évidemment, Pierre, il voulait aller loin avec le Seigneur, mais il a été très attaqué. Quand on veut servir le Seigneur plus que les autres, on a des soucis plus importants que les autres. Lesquels ? Bien, Paul en parle en disant « Je suis assiégé chaque jour des soucis que me donnent toutes les églises ». Si Paul était resté un chrétien fidèle dans l'église, qui n'avait jamais voulu aller plus loin dans le service de Dieu, peut-être il n'aurait jamais eu tous ces soucis-là. Mais du fait qu'il est allé plus loin, les soucis ont été plus importants. Et ça, il faut le savoir. Et c'est pour ça que notre temps de prière, plus on sert, plus notre temps de prière doit être important. On a comme un fardeau pour l'œuvre de Dieu, et la préparation est nécessaire. Elle doit être, je dirais, avant, pendant, après, par le jeûne, par la prière. Maintenant, ceux qui veulent y échapper, qui veulent servir Dieu comme ça, sans se préparer, sans en tenir compte, bien sûr, ils vont faire des choses. Mais le fruit n'y sera pas, et tôt ou tard, ils reviendront à la prière et au jeûne, parce qu'ils se rendront compte que par eux-mêmes, ils ne portent pas de fruits. On prépare donc le service dans le jeûne. Si on ne le fait pas, on abandonne, parce qu'on est découragé, parce qu'on n'a pas la force. Et face même aux nouveaux défis qui sont devant nous, frères et sœurs, il nous faut nous tenir dans le jeûne, dans la prière, nous préparer. C'est comme ça que l'on sera plus fort. Je vous donne le deuxième exemple, donc c'est les anciens. Dans Actes chapitre 14, verset 23, après Jésus, on voit que les anciens aussi ont jeûné. Actes 14, 23, ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ici, c'est Paul et Barnabas qui viennent de fonder plusieurs églises dans trois villes, Lystre, Icône et Antioche. Alors, regardez, peut-être on va lire juste les deux versets qui précèdent pour bien voir le contexte. Au verset 20, toujours dans le chapitre 14 et au verset 20, il est dit ceci. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà le contexte. Ils viennent d'ouvrir des églises, ce sont donc des jeunes églises, des jeunes croyants, et déjà, il faut qu'il y ait des responsables qui soient placés sur ces églises, ça va être des anciens. Donc les églises ne sont pas laissées comme ça à se débrouiller tout seul, il fallait des responsables spirituels. Donc, ils reviennent dans chaque église, qu'est-ce qu'ils font? Premièrement, ils fortifient l'esprit des disciples. Ces jeunes croyants avaient vraiment besoin de ne pas se laisser abattre et de devenir forts spirituellement. Et Paul nous dit qu'il y a deux sortes de chrétiens dans les églises. Il y a les chrétiens forts et il y a les chrétiens faibles. Et il dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter ceux qui sont faibles. C'est dans Romains chapitre 15. Et il dit, nous ne devons pas chercher ce qui nous plaît, nous qui sommes forts. Alors, dans quel cas catégorie est-ce que nous sommes ce matin? Est-ce que nous faisons partie de ces chrétiens qui sont forts, c'est-à-dire qui se tiennent dans la prière, dans le jeûne, qui se tiennent dans la foi, qui vont de l'avant pour le Seigneur, ou est-ce que nous sommes de ceux qui sont faibles? Voilà, il faut savoir dans quel côté on se trouve. Donc eux, ils voulaient que ces chrétiens soient forts, fortifiés dans l'esprit. Les disciples donc sont allés plus loin. Ensuite, ils les ont exhortés dans la persévérance. Deuxièmement, donc, persévérer dans la foi, parce que la vie chrétienne, c'est une vie de persévérance. Il y en a qui pensent que c'est juste un sprint, ils sont partis à fond, puis ils se sont arrêtés. Ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Et c'est pourquoi qu'il y a beaucoup de monde sur le départ, mais qui finalement tiendra bon jusqu'au bout. Voilà. C'est ça qu'il nous faut, frères et sœurs, être des chrétiens constants, persévérants et fidèles. Sinon, le Seigneur ne peut rien faire avec nous. Et troisièmement, il va les exhorter en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'on va rentrer dans le royaume de Dieu. Il va enseigner donc les vérités de la parole. Il ne va pas leur dire, mais vous allez être bénis, quoi que vous fassiez, ça va être facile, vous allez voir, tout va bien se passer. Il leur dit, non, il va y avoir beaucoup de difficultés, des tribulations, de l'opposition. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les églises vont être attaquées et il va falloir se tenir vraiment sur la brèche. Donc, ce n'est pas l'évangile de la bénédiction facile, de la prospérité ici. Alors, pour préparer les responsables, qu'est-ce qui s'est passé? Il a réuni les anciens, ils en ont désigné déjà, au verset 23, et puis ils ont passé du temps dans le jeûne et dans la prière. C'était leur préparation spirituelle en vue du service qu'ils allaient tenir dans ces assemblées. Et ainsi, les anciens avaient la responsabilité de veiller sur eux-mêmes et sur le troupeau, comme c'est dit dans Actes 20-28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Veillez sur soi-même, donc les anciens veillent sur leur propre vie spirituelle, leur santé spirituelle, mais aussi eh bien, veillent sur la santé de leurs frères, de leurs sœurs dans le troupeau, pour que tous ensemble nous allions de l'avant pour le Seigneur. Ensuite, ils ont recommandé les anciens au Seigneur, parce qu'ils devaient partir, et il ne fallait pas qu'ils se retrouvent livrés à eux-mêmes, il fallait que maintenant ils fassent confiance à Dieu, et ils devront rester fidèles dans l'enseignement de Jésus, s'occuper des âmes, et c'est une noble tâche que de servir le Seigneur. C'est un honneur pour nous de servir le Seigneur, bien sûr, et on se rend compte que Dieu choisit qui il veut, comme il veut, mais que nous, nous devons nous préparer et que nous devons veiller à nous tenir dans le jeûne, dans la prière, pour être prêts spirituellement au service de Dieu. Le jeûne et la prière nous permettent de rester humbles, de réaliser que Dieu nous a fait une grâce, de nous choisir, de nous appeler, de nous mettre à son service, mais finalement, nous sommes vraiment dépendants de sa voix, de sa volonté. Ça, c'était le septième but préparatoire. De 84 ans, c'est dans Luc 2, 37, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Servir Dieu dans le jeûne et dans la prière. Somme toute, on sait assez peu de choses sur Anne, si ce n'est trois choses, c'est-à-dire premièrement, elle était prophétesse. Donc déjà une femme qui avait cette sensibilité à entendre l'Esprit de Dieu et à retransmettre le message de Dieu. Une femme qui servait le Seigneur, qui avait des révélations. On sait deuxièmement qu'elle était veuve. Après 7 ans de mariage, donc, elle a connu le veuvage. Et en Israël, c'était très considéré qu'une femme reste veuve longtemps comme ça. Elle était très honorée. Ce qui signifie qu'elle n'avait pas de famille à charge et elle s'occupait, elle avait consacré tout son temps à l'œuvre de Dieu. Et puis, enfin, troisièmement, elle servait Dieu dans le jeûne. Donc, une femme qui aurait pu choisir d'utiliser son temps autrement, mais à 84 ans, elle continuait dans ce service du jeûne et la prière. Ça répond à la question, jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut servir le Seigneur? Ben, vous voyez, 84 ans, merci Seigneur. Hein? Une personne qui a servi le Seigneur, on pourrait dire, toute sa vie jusqu'à son dernier souffle. L'espérance de vie augmentant, frères et sœurs, nous serons appelés certainement à servir le Seigneur de plus en plus longtemps. Et cela ne doit pas nous attrister, au contraire, on devrait dire merci Seigneur. Elle pouvait jeûner, elle pouvait prier, c'était son service. Bon, elle était peut-être limitée physiquement, c'est-à-dire qu'elle n'allait pas courir à gauche, à droite. Elle n'allait pas peut-être distribuer des prospectus, des invitations, comme on pourrait le faire, s'occuper des jeunes, organiser des voyages. Non, ce n'était pas ça. C'était la prière, c'était le jeûne, c'était son activité pour Dieu. Et la Bible dit, remarquez bien, nuit et jour. Elle avait consacré une grande partie de son temps. Elle assistait, alors il y a deux interprétations, soit elle assistait très tôt aux offices et très tard le soir, où elle passait une partie de sa nuit en prière dans le temple. En tout cas, c'était une personne engagée pour le Seigneur. Et voyez-vous, cette caractéristique de femme de prière, on la retrouve jusqu'à aujourd'hui dans la parole, et c'est une des caractéristiques que le Seigneur a voulu qu'on retienne de cette femme. Anne, elle servait dans le jeûne, dans la prière. Ses temps de jeûne ont été exaucés, on peut le dire, puisque elle priait pour la venue du Messie, et elle a vu de ses yeux Jésus, le petit enfant qu'on venait présenter au temple. Elle était avec Siméon et elle a vu le Seigneur Jésus avant de certainement de mourir. Alors, Actes chapitre 13, le point suivant, c'est le neuvième but, recevoir les directives du Saint-Esprit. Ici, nous retrouvons une autre réunion de jeûne dans l'église d'Antioche. Pendant qu'ils servaient le jeûne et prière, acte 13, 2, dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voilà l'église d'Antioche qui est aussi une jeune église qui a été ouverte bien après Jérusalem, suite à des persécutions, après la mort d'Étienne, etc., et qui va devenir très rapidement importante, et des ministères vont se lever dans cette église, des prophètes, des docteurs. Et c'est une église qui vit vraiment dans les dons spirituels, dans la vie de l'esprit. Et on remarque une chose intéressante, c'est que Antioche, qui est pourtant plus jeune et moins expérimentée, on pourrait dire, que l'église de Jérusalem, l'église principale, l'église fondée dès le départ, eh bien c'est pourtant d'Antioche que vont partir les premiers voyages missionnaires, et pas de Jérusalem. Donc cette église avait vraiment pour but de rentrer dans les projets de Dieu, dans les plans de Dieu. Et Dieu a choisi une église comme celle d'Antioche pour sa consécration, pour les ministères qu'il y avait sur place, parce qu'il y en a deux quand même qui vont être détachés de cette église, qui vont partir, pour leur engagement. Les ministères, donc, il est dit dans ce texte, passaient du temps dans la prière. Et le jeûne, pourquoi? Eh bien, la première raison, c'est pour servir le Seigneur, comme on l'a vu avec Anne. Elle servait dans le jeûne et la prière. Mais je reviens à ce texte, servir. C'est dans Acte 13, verset 2. Voyez-vous, ce mot servir, c'est un mot qui signifie, en réalité, servir dans le culte, c'est plus précis que servir comme ça. C'était servir dans le culte public accompagné d'un temps de jeûne. Ils servaient donc, ils faisaient leur réunion et en même temps ils cherchaient la volonté de Dieu suite au culte. Et je pense qu'ils étaient dans cette attitude de prière: Seigneur, montre-nous ce que tu veux, non pas simplement pour Antioche, mais pour le monde qui va plus loin qu'Antioche. Ils avaient soif de Dieu, de lui plaire, de lui obéir, quel qu'en soit le prix. Ils attendaient simplement les directives de Dieu. Ils voulaient entrer dans les projets, pas faire leurs projets, mais entrer dans les projets du Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé dans ce jeûne. Donc, étant dans cette attitude-là, pendant qu'ils servaient, pendant qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: voilà, voilà mes projets, voilà mes plans. Vous allez choisir ces deux personnes, les mettre à part pour la mission. Donc, la voix du Saint-Esprit a retenti pendant le jeûne et ils ont organisé ce premier voyage missionnaire, chose à laquelle les chrétiens n'avaient pas pensé. Ce n'était pas dans leur projet, mais c'était les projets de Dieu. On n'a jamais tort de passer du temps dans la prière pour chercher les projets de Dieu pour notre vie et pour notre Église. C'est ce que nous voulons faire dans le jeûne aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Non seulement ils avaient jeûné avant, le Saint-Esprit a parlé, mais au verset 3, il est dit qu'ils ont encore jeûné. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent battre. Ils n'en avaient pas assez, voyez-vous, d'avoir jeûné déjà un premier temps. Ils continuaient, ils poursuivaient dans le jeûne et dans la prière pour rester encore dans la présence de Dieu. Parce que quand on a goûté à la sainte présence de Dieu, eh bien on aime y rester, on aime passer du temps et on n'est pas pressé de partir. Et Paul pratiqua cette sorte de jeûne. On pourrait dire que maintenant c'est un jeûne de préparation. Il y a eu le jeûne où il y a eu l'appel de Dieu. Et s'il continue à jeûner, c'est pour se préparer, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, un début du jeûne, c'est se préparer au service. Et il va le faire pour les anciens. On va voir que ça va porter du fruit parce que il l'a fait pour lui-même. Et quand il va ouvrir les églises, il va jeûner avec les anciens pour les préparer aussi au service auquel Dieu les appelait. Et je termine avec le dernier but, le dixième. Triompher des puissances mauvaises, dans Matthieu chapitre 17 et verset 21. Cette parole de Jésus, suite à l'échec des disciples qui n'ont pas pu chasser un mauvais esprit, eh bien Jésus les reprend, leur dit: voilà, c'est à cause de votre incrédulité. Puis il leur dit: cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors il faut qu'on aille dans le texte pour voir deux choses, car ce verset suscite une certaine controverse pour deux raisons. Vous l'avez peut-être entre crochets dans votre Bible, ou entre parenthèses, ou voire en note dans certaines versions. Pourquoi ? Parce qu'il est absent de certains manuscrits, et il est néanmoins présent dans la majorité des manuscrits. Et il correspond au contexte où Jésus traite une question difficile. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire. À cause de la difficulté, c'est qu'il est absent dans certains manuscrits. Deuxième chose, c'est le texte grec lui-même. Verset 21 nous dit, vous l'avez sous les yeux, cette sorte, voyez, les mots deux démons ne sont pas dans le texte grec. En réalité, c'est écrit, cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Par la prière et le jeûne. Voilà comment c'est écrit dans l'original. Et ceci a fait penser à certains que si c'est pas écrit deux démons, c'est que Jésus faisait référence ici à la foi. Je vais vous expliquer pourquoi il pense ça, parce que c'est au verset 20 que Jésus va parler de la foi. « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, etc. » Ayant parlé de la foi précédemment, il pourrait dire cette sorte de foi ne sort ou ne se développe que par le jeûne et la prière. C'est une interprétation difficile à soutenir parce que vous avez un parallèle dans l'évangile de Marc au chapitre 8 et au verset 29, où il est clairement précisé qu'il s'agit d'esprit et non pas de foi. Mais je vous le signale parce que je l'ai entendu, cette interprétation. Et Marc chapitre 28, verset 29, Marc chapitre 9, verset 28, dit « Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» ou ce mauvais esprit, hein. Il leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par le jeûne et la prière. » Et quand Jésus dit cette espèce-là, ça concerne bien l'esprit. Dans ce texte, il n'y a aucun doute possible dans Marc 9, 28. C'est pour ça que bien que ça ne soit pas marqué deux démons ici, eh bien nous relions cette phrase avec le parallèle de Marc, chapitre 9, versets 28 et 29. Et n'y a pas de doute possible que Jésus ici parle des mauvais esprits. Donc dans ce récit, il y a trois raisons pour lesquelles les disciples ont échoué. Jésus leur dit, premièrement, c'est à cause de votre incrédulité. Vous manquez de foi, vous êtes encore trop rationaliste, trop terre à terre, etc. C'est peut-être aussi ce que le Seigneur pourrait nous dire à nous ce matin. Nous avons besoin de davantage faire confiance à Dieu. Deuxièmement, il leur dit, c'est à cause aussi d'un manque de prière. Vous n'avez pas une prière assez régulière, vous n'êtes pas assez en contact avec Dieu régulièrement. Et troisièmement, dans ce texte-là de Matthieu, c'est à cause d'un manque de discipline spirituelle dans le jeûne et dans la prière. Vous ne passez pas assez de temps à vous discipliner et vous n'avez pas l'autorité spirituelle sur les démons à cause de cela, ou sur certains démons, puisqu'il dit cette sorte-là qui était d'une puissance supérieure. Donc vous avez ces trois éléments qui sont manque de foi, manque de prière, manque de jeûne. Alors en conclusion, si on termine maintenant, on va prier, on se rend compte que le jeûne, il y a un prix à payer pour accéder à une nouvelle dimension spirituelle. Je voulais citer pour terminer un texte de Hall qui dit ceci. Jeûner ne signifie pas simplement sauter des repas pendant un certain temps. Cet exercice traduit notre désir de maîtriser nos appétits physiques et de mettre de côté tous les désirs et toutes les préoccupations terrestres au profit de biens spirituels. Par le jeûne, nous disons à Dieu que nous sommes disposés à nous offrir entièrement à lui pour qu'il accomplisse sa volonté. Le jeûne est le signe que nous sommes prêts à renoncer à des choses aussi légitimes que la nourriture du corps pour nous concentrer sur notre engagement à son service. Lorsque par le jeûne, nous montrons à Dieu avec quel sérieux nous sommes décidés à nous offrir à lui, il répondra à nos prières en nous donnant une plus grande mesure de force, de sagesse et de bénédiction spirituelle. Alors j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça résumait un petit peu ce qu'on a vu et je vous le laisse. Jeûner, voilà, c'est pas simplement sauter des repas, mais il y a tout un aspect de prière où on va grandir spirituellement, où on va chercher Dieu, on va s'attendre à Dieu, on a vu tous ses buts. Et on va prier maintenant, on va poursuivre ces instants, se placer devant Dieu, en demandant à Dieu encore sa grâce. Merci encore pour ta parole qui nous invite à rechercher ces choses et à nous placer devant ta face dans le jeûne et la prière. C'est vrai, c'est à nous de le désirer, c'est à nous, Seigneur, de répondre à cette invitation, cet appel à se mettre à part, à se sanctifier, à rechercher ta face, à, Seigneur, nous rapprocher de toi, à revenir dans tes voies. Tu vois combien les églises se sont attiédies, même dans notre pays où bien souvent les réunions de prière, où l'évangélisation est délaissée, où les chrétiens viennent au culte, il est vrai, mais toutes les réunions de semaine souffrent. Et nous te prions, Seigneur, pour qu'il y ait un véritable retour à toi dans notre église, dans notre ville, dans notre nation, pour que ton nom soit honoré, qu'il soit connu, que nos vies déjà soient percutantes. Nous voyons combien ces disciples avaient besoin de se placer devant toi pour aller plus loin, pour augmenter dans leur puissance spirituelle. Et nous voulons, Seigneur, nous attendre à toi pour ces choses, mon Dieu. Nous voulons aller plus loin, nous voulons être une église victorieuse qui va de l'avant, qui gagne des âmes, qui voit l'ennemi reculer. Nous voulons voir ces paralytiques marcher, Seigneur, ces miracles, ces prodiges, des démons expulsés au nom de Jésus. Nous désirons voir ta gloire au milieu de nous. Nous voulons avoir cette vision de victoire et de foi. Délivre-nous de toute mondanité, Seigneur, ou de toute vision de rabaissement qui réduit l'évangile à simplement quelques mots, quelques phrases concernant le salut. Nous voulons aller plus loin, nous savons que nous sommes sauvés, Seigneur, mais c'est pour t'adorer, pour te servir, pour être utilisable par toi, pour faire tes œuvres, mon Dieu, et nous désirons entrer dans ces plans, ces projets que tu as prévus pour nous. Conduis-nous plus loin dans ta présence, mon Dieu, et que ton nom soit loué.